Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique du côté des classiques, le philosophe et correspondant parlementaire Gabriel Côté analyse la situation difficile du Parti québécois par le prisme de deux fables de La Fontaine. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, parle-nous d'Éric Kerr et de la bévue qu'il a commise.
Oui, mais vraiment, je ne sais pas si Éric Kerr a péché par orgueil. Chose certaine, c'est pas très reluisant.
C'est le ministre de la Sécurité informatique.
Oui, de la cybersécurité, numérique, là, maintenant. Là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et M. Kerr avait affirmé que la première étape de l'identité numérique, il faut comme le démystifier pour les auditeurs.
Qu'est-ce que l'identité numérique, Rémi?
C'est hyper important. C'est à chaque fois qu'on veut faire affaire avec le gouvernement, que ce soit pour renouveler un permis, pour faire une demande, par exemple, pour avoir un certificat de naissance, ou en tout cas, peu importe, payer un permis, etc., on veut que ce soit facile, qu'on puisse avoir, par exemple, un seul endroit où on va
guichet unique.
Oui, et que l'on ait une identité numérique, donc une façon là, vraiment de se connecter toujours de la même façon avec un code qui nous identifie et qu'on puisse faire nos transactions avec le gouvernement.
C'est élémentaire.
Oui, dans le monde d'aujourd'hui, on devrait déjà être rendu là.
Puis on le fait avec nos institutions bancaires depuis 25 ans.
Exact. Et puis avec tout plein d'autres entreprises aussi.
Ben oui.
Bon. Alors, bref, et je sais que M. Kerr est plein de bonnes intentions et qu'il veut livrer. Sauf que ceci étant, il l'avait dit, si la première étape, ça s'appelle Click Secure, la première étape de mon identité numérique n'est pas prête en juin, parce qu'il s'est engagé à ce que ce soit prêt en juin. Il avait dit là, vous pourrez parler de bordel informatique, qui était comme un peu là, le je ne dirais pas le slogan.
C'est notre rubrique.
Oui, par laquelle on identifiait...
Une rubrique récurrente pour dénoncer les...
Tous les problèmes qu'il y a eu dans les projets informatiques dans le passé du gouvernement. Bref. Donc, notre collègue Nicolas Lachance, qui s'y connaît beaucoup dans ce dossier-là, qui a beaucoup de contacts, a publié un papier récemment pour dire qu'il y avait vraiment de l'eau dans le gaz parce que la Commission d'accès à l'information doit donner son approbation pour les règles de gouvernance qui encadrent l'application ou le déploiement de ce projet d'identité numérique.
Oui.
Et ils n'étaient pas satisfaits de la première version de ce que leur avait proposé le ministère d'Éric Kerr. Et donc, ils ont demandé que ce soit mieux. Et ils ont demandé que ce soit plus transparent. Et eux, leur préoccupation, c'est vraiment qu'on s'assure qu'il y a la protection des renseignements personnels des gens. Parce que autant on veut ce que je t'ai décrit tantôt, c'est-à-dire qu'on puisse faire affaire facilement avec l'État de façon numérique, mais on veut pas, par contre, que ça devienne source là, de...
Un bar ouvert à données.
Oui, exactement, et fuite de données personnelles. Bon, alors, il y avait donc ce problème-là. La Commission d'accès à l'information a retourné, dans le fond, le ministère à ses devoirs. Et c'est un fait, là. La question, c'est est-ce qu'en juin, c'était livré la première étape? Non. C'est ça, le nœud. Et donc, Nicolas Lachance a publié un texte, comme je disais, là-dessus, du journal. Et Éric Kerr, c'est comme si, il n'était pas content, même si pourtant son ministère a eu l'occasion de donner sa version des faits à Nicolas. Et ça se retrouve dans le texte. Et c'est même, en fait, c'est... Dans le texte de Nicolas, c'est pas contesté par le ministère parce qu'ils disent que ils sont en constante collaboration entre les deux organisations pour satisfaire aux exigences de la Commission d'accès à l'information. Donc, ils admettaient là, que quoi qu'il allait pas. Mais bref, Éric Cass, comme c'était pas content de ça, et il s'est retourné vers Le Soleil où il a accordé une entrevue dans laquelle il disait...
Il est allé chez un concurrent.
Oui, mais là pour dire c'est pas vrai que c'est pas livré, parce que déjà, il y a une première étape, c'est accessible pour les éducatrices, les éducateurs en service de garde qui sont payés par le ministère de la Famille. Donc, c'est 33 000 personnes qui déjà ont commencé à utiliser le Click Secure. C'est ce qu'il a dit, mais malheureusement pour lui, c'est pas vrai. Parce que c'est son propre ministère qui a dû le corriger, donc dans ce média-là, pour dire, ben en fait, non, c'est pas ça. C'est que c'est testé présentement par une quarantaine d'utilisatrices pour voir si justement ça peut en...
Quarantaine?
Oui, c'est ça.
Pas 33 000.
Non. Et bon, alors là, donc, évidemment, il y a une grosse différence. C'est le tester, ça veut pas dire donc que c'est accessible aux autres employés. C'est pas ça du tout. Donc, alors, c'est vraiment le bévu, là, c'est le mot est faible parce que, comme j'ai dit, j'ose croire qu'il l'a pas volontairement induit en erreur. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il pensait que c'était déjà accessible pour tous et toutes dans l'application pour le ministère de la Famille. Mais bref, chose certaine, c'est qu'on est revenu, donc même là, dans le média concurrent, là, comme on dit dans Le Soleil, bien, ils sont revenus au même constat, c'est-à-dire que la Commission d'accès à l'information attend que le ministère présente une nouvelle version l'application de la première étape avant de vraiment comme donner son approbation. Et oui, on est en retard parce qu'on n'est pas en juin, on arrive à la fin novembre, mais c'est pas livré.
Sur le fond des choses, moi j'ai une hypothèse, puis peut-être c'est que on est plus difficile avec l'État pour ce qui est des renseignements personnels qu'avec toutes les entreprises à qui on envoie à peu près tout.
Oui, oui.
Tu sais, et ça, c'est peut-être ce qui fait que c'est si difficile à mettre en place. Même chose pour tout ce qui est renseignement lié à la santé. Donc, alors que nos opérations bancaires, je veux dire, c'est très intime, d'une certaine, pas intime, mais c'est très personnel. Mm-hmm. Puis, si on n'hésite pas à tout donner, puis quand on pense à Google, Facebook, Instagram, qui prennent nos informations.
Ouais.
Peut-être qu'on est beaucoup plus, libéraux avec les GAFAM qu'avec notre propre État. Mais alors que notre État est sans doute moins requin sur le plan de la vente des renseignements personnels que les GAFAM.
Moins requin, mais possiblement plus à risque encore, je disais plus.
Ouais.
Parce que si gros, justement. Donc, peut-être... plus susceptible, je dirais, d'être attaqué ou en tout cas, chose certaine aussi, c'est que sur le fond, de toute façon, l'important, c'est la vérité. Donc, que ça plaise pas à M. Kerr, je pense que ce qu'il doit reconnaître, c'est vrai qu'en juin, c'était pas disponible. C'est ça, là.
Non, absolument. Ça, je conteste pas ça.
Et il faut l'assumer. Ça veut pas dire que pour la suite, ce sera mauvais. Et comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il veut bien faire, mais c'est juste que, bon, entendons-nous sur les faits.
Parlons de Québec solidaire maintenant, qui tient son caucus précessionnel. Tu dis que la table est mise pour un affrontement Québec solidaire, Christian Dubé, la semaine prochaine.
Oui, mais il y en était question au caucus précessionnel, mais aussi c'est que Vincent Marissal fait une tournée. Il est allé, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, à Montréal, il a fait une visite d'hôpital et il l'a fait donc cet après-midi, jeudi après-midi, à Québec, au CHU. Et il fait des tournées et ensuite donc rencontre la presse pour interpeller le ministre Christian Dubé. Vincent Marissal insiste beaucoup sur le fait que M. Dubé doit aller sur le terrain, parler aux médecins, aux infirmières et pas seulement faire des meetings avec les gestionnaires.
Bon, c'est ça.
Et ils insistent beaucoup, les solidaires, sur le fait qu'il faut mettre fin au recours aux agences privées, par exemple pour les infirmières là, qui proviennent de ces agences de placement. Et là, ça devient comme toujours un peu l'œuf ou la poule. T'sais, comment on fait en sorte de freiner le servicieux sans se priver de ressources dont on a besoin immédiatement, dans l'immédiat. Donc, QS voudrait qu'on ait un programme pour mettre fin à l'utilisation des infirmières qui viennent du privé. Et du côté de Christian Dubé, le discours était plutôt que, ben là, pour l'instant, on ne peut pas s'en passer. Il y a des endroits où les gestionnaires sont carrément dépendants de ces ressources-là, parce que sinon, ben on ne peut pas donner de service. Alors, moi, je pense donc que la semaine prochaine, lors de la reprise des travaux parlementaires, ce sera un thème de Québec solidaire. Je dis, ils ne se sont pas promenés dans les hôpitaux pour rien. M. Nadeau-Dubois était même avec Vincent Marissal cet après-midi du côté de Québec. Et je vois là, donc qu'on semble vouloir dépeindre M. Dubé comme trop préoccupé, justement, là, à faire les rencontres de gestionnaires et à voir ça de haut. Et il voudrait comme qu'il soit davantage sur le plancher des vaches. Et pour ce qui est du fond, mais je regarde l'ordre des infirmières, ben ils ont présenté des chiffres récemment. Et tu sais, des fois quand on dit il y a une pénurie, oui, mais en même temps, les chiffres démontrent qu'il n'y a jamais eu autant d'infirmiers, infirmières, et même il n'y en a jamais eu autant à temps plein.
Ah bon?
Mais le problème est dans le fait que les horaires de travail sont plus intéressants dans les agences de placement.
Tout simplement.
L'augmentation, on dit que c'est 2400 infirmières qui travaillent principalement pour une agence de placement, et ça, c'est une hausse de presque 20% sur un an. Donc, il y en a de plus en plus, mais s'ils ne sont pas dans le public, ben on ne gagne pas beaucoup. On n'arrive pas comme à régler notre problème. Donc, de quelle façon on met un terme à ça sans, comme je disais tantôt, affecter les services à court terme? Ben là, c'est tout le dilemme. Mais M. Dubé, quand
l'œuf ou la poule.
C'est ça. Mais M. Dubé a commencé un peu à ajuster le discours parce que, bon, jusqu'à tout récemment, il n'en avait que pour il faut qu'il y ait davantage d'infirmières à temps plein. C'était que ça. Et il y a eu quand même un impact. Le fait d'avoir proposé des primes, des incitatifs financiers, ça a fonctionné. Pas autant, ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils souhaitaient, M. Dubé, mais on ne peut pas dire non plus que ça n'a pas donné de résultats. Il y en a davantage. Bon, on a fait un bout de chemin, mais là, maintenant qu'on a fait ça et qu'on, si on se rend compte qu'on peut pas aller plus loin, il faut faire autrement. Et là, il a commencé lui-même à parler justement de la question des horaires, tu sais, de la qualité d'horaire de travail. Et il faut quand même souligner une chose, M. Dubé avait dit qu'il allait forcer les CIS et CIUS à offrir les beaux quarts de travail, donc on pense des fois aux 9 à 5, là, aux employés du secteur public et qu'il fallait que ce soit donc les agences de placement qui
se retrouvent avec les quarts difficiles.
Oui, le soir et la nuit, mais dans les faits, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Donc, tu sais, M. Dubé, quand même, aussi, des fois, livre pas complètement là, ce qu'il dit, malheureusement.
En terminant, ben on a un extrait de Québec solidaire qui parle des... En terminant, on a un extrait de Gabriel Nadeau-Dubois qui nous parle du serment au roi Charles III qui a été prêté par les membres de Québec solidaire,
oui.
Même par un membre pour qui ça a été très difficile.
Très réfractaire, donc, à ce serment. Et donc là, c'est vraiment, on l'avait dit, la dernière portion de suspense, c'est qu'est-ce que vont faire les trois péquistes, là. Ils n'ont toujours pas, eux, prêté serment. La rentrée, c'est mardi. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais dans le cas de Québec solidaire, donc, on sait qu'ils seront là physiquement au Salon Bleu parce qu'ils ont accepté, comme ils l'avaient fait en 2018, de prêter serment, mais pas de façon publique,
caché.
De façon privée. Et on va entendre effectivement Gabriel Nadeau-Dubois qui a parlé de ça et Sol Zanetti qui est à côté de lui.
Donc, dans le fond, tout le monde le fait. Il y a juste notre collègue Haroun qui a son rendez-vous demain. Donc, ce sera fait dans les prochaines heures. Sinon, tout le monde est passé par ce désagréable, mais néanmoins malheureusement nécessaire moment.
Pour le moment.
Exact.
Est-ce que vous êtes sans salut, M. Zanetti?
Ça a été le fun pour personne.
Non, mais... La dernière fois, vous étiez pas sali, c'était souillé, vous aviez
utilisé. Ouais, je préfère pas commenter encore.
Est-ce que les capacités, vous appuyez toujours?
C'est à jamais.
Les rires, c'était pour le fait que Sol Zanetti avait vraiment dit qu'il s'était senti souillé à jamais. ce qui avait fait sourire tout le monde en 2018. Et on avait tous encore en mémoire sa déclaration.
Il l'est encore, donc doublement, parce que là, il l'a refait.
Doublement souillé. Je ne sais pas si l'éternité peut se multiplier, mais... C'est ça.
C'est long vers la fin, l'éternité, comme disait Woody Allen. Merci beaucoup, Rémi Nadeau.
Bye-bye.
On se reparle lundi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Dis.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
C'est jeudi, jour du côté des classiques. Et bonjour, Gabriel Côté.
Salut Antoine, comment ça va?
Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Il suit la politique au quotidien ici, mais périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, Gabriel, tu veux comprendre les difficultés du Parti québécois dans sa négociation avec les autres partis ici à l'Assemblée nationale pour être reconnu comme un vrai parti, pour en avoir certains attributs, des budgets, des temps de parole et tout ça, mais grâce à deux fables de La Fontaine.
C'est ça. J'ai trouvé deux fables de La Fontaine qui me semblent bien illustrer la situation. On se souvient qu'en ce moment, le Parti québécois mène un combat à coups d'arguments pour faire valoir son point, puis il essaie de gagner, si on veut, sur le terrain de la justice, sur le terrain de la raison. Donc,
oui.
Paul Saint-Pierre Plamondon, on sent toujours que c'est important pour lui d'avoir raison. Donc, dans le dossier du serment au roi,
mm-hmm.
il y avait dans sa besace les avis, 12 avis juridiques qui étaient très forts, puis qui devaient donc faire plier tout le vent qui devait lui permettre d'affronter tout le vent qu'il y avait en face.
Mm-hmm.
Par exemple, l'avis du président pas du président de l'Assemblée nationale, mais du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui
ouais.
disait son point par des arguments. De même dans le dossier des négociations entre les
oui, partis... Oui, c'est ce que j'évoquais au départ.
Oui, c'est ça. Donc,
alors, c'est quelle fable tu vas utiliser?
Je vais utiliser la fable « Le loup et l'agneau » d'abord. Je vais utiliser parce qu'elle me semble exprimer une facette de ce qui est en train de se passer mm-hmm. entre les partis. Donc,
et « Le loup et l'agneau », ça commence par une phrase très forte. C'est une maxime politique machiavélienne, dans le fond.
Exactement. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ensuite...
La meilleure, pas au sens moralement meilleure, mais
qui
l'emporte. Hein?
C'est ce que la fable montre bien. Si tu me permets de la lire, on va voir le rapport.
Fais ton Fabrice Lucchini.
Oui, non, je vais essayer. je vais sortir mes talents de lecteur. Donc, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survint à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, » répond l'agneau, « que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Mmh. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tète encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
Es-tu en train de nous dire que le Parti québécois, c'est l'agneau de la fable? Mais qui est le loup?
Il y a des gens qui pourraient dire que, en ce moment, le Parti québécois est l'agneau de la fable, puis qu'il y a plusieurs loups qui sont en train d'essayer
de le
dévorer. Ce qu'on voit...
En essayant de se trouver des raisons.
en essayant de
s'inventer des raisons.
Trouver des raisons. Ce qu'on voit dans la fable, c'est un agneau qui est en position de faiblesse, qui est en position de vraiment gagner la partie contre le loup. Puis il sert des arguments qui sont assez convaincants. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Puis au fond, il a raison. Alors que tout ce que le loup dit, c'est faux, c'est pas convaincant, mais au bout du compte, c'est quand même lui qui réussit à l'emporter.
Oui.
Alors, ce qu'on pourrait conclure de cette fable-là, c'est que le PQ a beau argumenter, il s'agit d'un exercice inutile, voire même nuisible pour lui, parce que en argumentant, il donne l'air, au moins à ses adversaires, de l'avoir écouté, puis d'avoir été magnanime d'une certaine façon.
Ah oui.
Parce qu'on remarque que le loup ne dévore pas l'agneau tout de suite dans la fable. Il laisse une certaine forme de procès.
C'est vrai.
Même s'il finit par le dévorer. Donc, le loup tire un avantage, lui aussi, de laisser la discussion...
C'est la raison du plus fort qui l'emporte.
C'est la raison du plus fort qui l'emporte, mais ce ne sont pas les raisons du plus fort qui sont les meilleures.
Non.
En tant que telles. Alors,
est-ce qu'il y a une autre fable maintenant qui peut nous aider?
Ben, il y a une autre fable qui dit quelque chose d'un peu différent, racontant la même histoire. C'est une fable qui met aussi en scène un loup. C'est Le loup et le chien maigre. C'est une fable qui arrive beaucoup plus loin là, dans les fables de La Fontaine. Puis c'est une autre histoire qu'on lit jamais aux enfants.
Ben non.
Alors, je vous la lis aussi. Il y a une longue introduction que je vais laisser nos auditeurs aller découvrir par eux-mêmes. Mais c'est l'histoire d'un pêcheur qui prend un petit poisson puis qui décide de le garder, même si le petit poisson dit « Ah, mais je suis bien trop petit, tu devrais me laisser grossir parce que tu vas avoir plus à manger si tu me pêches plus tard. » Puis le pêcheur dit « Non, 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 il fait frais tout de suite, puis il mange, puis il est content. » Et là, La Fontaine dit « Le pêcheur a eu raison d'agir ainsi. » Et là, puis, il passe, c'est ça.
Et là, ça va être le chien maigre et le loup.
Le loup et le chien maigre. Certains loups, aussi sots que le pêcheur fut sage, donc le pêcheur dont je parlais, trouvant un chien hors du village, s'en allait l'emporter. Le chien représenta sa maigreur. Que ça ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là. Attendez, mon maître marie sa fille unique, et jugez qu'étant de noce, il faut, malgré moi, que j'engraisse. Le loup le croit, le loup le laisse. Le loup, quelques jours écoulés, revient voir si son chien n'est pas meilleur à prendre. Mais le drôle était au logis. Il dit au loup, par un treillis, « Ami, je vais sortir, et si tu veux attendre, le portier du logis et moi, nous serons tout à l'heure à toi. » Ce portier du logis était un chien énorme, expédiant les loups en forme. Celui-ci s'en douta. « Serviteur au portier, dit-il, et de courir. Il était fort agile, mais il n'était pas fort habile. » Ce loup ne savait pas encore bien son métier. Donc, c'est la même histoire.
Oui.
C'est exactement la même histoire. On a un loup qui veut dévorer quelqu'un qui serait capable de dévorer, qui discute avec sa victime potentielle, mais qui, finalement, laisse les choses aller. Se plie, si on veut, aux bons arguments de son adversaire.
Mm-hmm.
Donc, on pourrait dire que les bons arguments peuvent être efficaces en politique, puis que le parti que le PQ a pris de se défendre en faisant valoir des raisons était le bon. Mais il faut remarquer que les bons arguments ne sont peut-être pas ceux qui s'adressent à la raison ou un sens de la justice ou à la bonne foi des adversaires. Comme,
parlant de bonne foi, as-tu un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon qui en parle?
Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon disait il y a quelques semaines à la télévision, c'est quelque chose qu'il répète souvent, que ses adversaires sont de bonne foi et qu'il s'appuie sur cette bonne foi de ses adversaires pour obtenir des gains. Alors, on peut l'écouter.
Mais là, on a quand même plusieurs semaines devant nous. Là, donc, s'il n'y a pas d'entente, clairement, c'est parce qu'il manque de mauvaise foi. Et nous, on est de bonne foi. Et on pense que tous les partis devraient être reconnus à leur juste valeur. Rappelons que le Parti québécois a eu plus de votes que le Parti libéral. Donc, ce serait très surprenant que la CAQ et le Parti libéral, au final, empêchent le Parti québécois d'exister, d'avoir des budgets de fonctionnement minimal, au minimum, là. Donc, s'attend à ce qu'il y ait un dénouement positif.
Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon disait il y a quelques semaines, nous, on est de bonne foi, ça devrait fonctionner.
C'est ça. Puis, oui, il en appelle à leur bonne foi. Donc, le problème avec cette position-là, si on regarde la fable attentivement, c'est que la...
Ça, c'est la dernière avec la dernière, le chien maigre.
Hein, loup et le chien maigre. C'est que le loup et le chien maigre posent deux conditions pour que les arguments de la personne qui est en... de celui qui est en position de faiblesse soient efficaces. D'abord, ils doivent pas s'adresser précisément à la bonne foi ou au sens du bien de l'adversaire.
Ah bon?
Ils doivent plutôt s'adresser à l'intérêt, à l'appétit, à son cœur, parce que un sens abstrait de la justice, c'est rien de vraiment tangible. Le loup...
ça, c'est très machiavélien, là.
Ça, le loup, il veut manger.
C'est ça.
Le loup, il veut manger, il cherche son profit.
Donc, il faut s'adresser à ses intérêts.
Il faut s'adresser à ses intérêts. Puis comme ça, on est peut-être capable de le faire manquer son coup. Mais pour qu'il manque son coup, il faut une deuxième condition également. Il faut que le loup manque d'expérience.
Ah.
Alors, c'est le cas de ce loup qui ne savait pas encore bien son métier.
Il connaît pas son métier, ça veut dire qu'il n'est pas un vrai loup est capable de toutes les ruses pour finalement bouffer l'agneau ou le chien maigre.
C'est ça. Il doit... il se dit « Ah, je vais peut-être pouvoir le manger plus tard, puis ça va me... Je vais y trouver un profit. Ces arguments-là sont bons. »
Il aurait dû faire comme le pêcheur qui... tout de suite fait rôtir le petit poisson.
Oui, ou comme le loup dans Le loup et l'agneau qui s'est approché, qui a laissé aucune chance, aucune vraie chance à l'agneau. C'est ce qui me fait dire que si les résultats auxquels le Parti québécois est parvenu sont si décevants dans sa perspective, on présumera pas trop...
On n'a pas encore le fin mot, là. L'entente s'en vient, là, hein, va être dévoilée donc lundi, mais il y aurait une entente sur la table.
Bien, on comprend, là, à les voir aller que les gens au PQ sont pas trop contents, mais donc si ces résultats sont décevants, c'est pas tant que le PQ s'est comporté comme l'agneau de la première femme, c'est-à-dire que son sort n'était pas nécessairement joué d'avance, il pouvait contrôler certaines choses, mais c'est qu'il n'a pas su remplir les deux conditions que je viens d'énoncer pour que sa négociation soit efficace. Au risque de me répéter, les arguments de Paul Saint-Pierre Plamondon se sont adressés à un sens abstrait de la justice qui serait présent à quelque part au fond du cœur des gens à la CAQ, des gens au Parti libéral.
Ça, c'est rousseauiste d'une certaine façon. Hein?
Un peu, c'est ça.
Donc, c'est Jean-Jacques Rousseau.
Un peu, il fait...
C'est tout le contraire de Machiavel et de La Fontaine.
Non, une confiance peut-être démesurée en
la bonté humaine.
En la bonté humaine. Le bon Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a fait valoir le droit d'exister du Parti québécois, mais une espèce de sens démocratique élémentaire, ça a résonné un peu au sein de la population.
Oui.
Mais même s'il avait utilisé des arguments qui s'étaient adressés plutôt à l'appétit de la CAQ, à l'appétit des libéraux, en essayant de leur faire voir leur intérêt dans le fait de lui accorder des choses, peut-être qu'il n'aurait pas eu les résultats qu'il voulait, parce que le fait est que les libéraux, du moins... ne sont pas des loups inexpérimentés. Ils ont exprimé, il y a quelques semaines, leur déception d'avoir cédé lors des négociations en 2018 puis d'avoir laissé trop de place à Québec solidaire. Alors, ils avaient déjà été le loup du loup et le chien maigre. Alors, ils avaient, cette expérience-là dans leur sac.
Merci beaucoup, Gabriel. C'est tout le temps qu'on avait pour cette leçon de machiavélisme par le truchement de La Fontaine. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
Cube Radio.